La grâce, la miséricorde et la paix vous sont données, à vous en particulier par Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère. Cette grâce de Dieu ouvre nos lèvres pour la louange. Ton amour, ô Éternel, est plus élevé que les cieux, et ta fidélité plus haute que les montagnes. Ta justice est comme une haute montagne, ton discernement est plus profond que le plus grand abîme. Tu sauves, ô Éternel, l'humain et tout ce qui vit. Qu'il est précieux ton amour, ô Éternel, mon Dieu. À l'ombre de tes ailes, tu nous abrites. Nous savourons les festins de ta présence. Au torrent du paradis, tu nous abreuves. En toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Grand merci à vous de vous être joints à ce temps de culte. C'est vraiment une bénédiction de vous avoir et de pouvoir ainsi nous tourner vers Dieu ensemble pour chanter sa louange, mais aussi pour nous ouvrir à cette parole qu'il nous adresse aujourd'hui. Alors nous avons choisi avec Didier Gaudel qui est à l'orgue de chanter ensemble le psaume 105, c'est le numéro 54, « Bénissez Dieu, louez sans cesse » et d'en chanter les quatre strophes. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Et il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est fort de cette promesse que nous pouvons nous tourner vers lui en toute confiance et nous présenter tels que nous sommes, en vérité, et lui demander son pardon et son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en suivant du cœur cette prière de repentance de Saint Augustin. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi de peur que par lassitude je ne veuille plus te chercher, mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. Ô toi mon Dieu, donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus. Devant toi est ma force et ma faiblesse. Garde ma force et guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Et là où je suis encore bloqué, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne et toi que j'aime. Augmente en moi ces trois dons de la force, de l'intelligence et de la foi, jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. Tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de la bienveillance de Dieu à leur égard et la grâce d'une vie augmentée. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque ait foi par lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme est ainsi venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous chantons notre reconnaissance à Dieu avec le psaume 68, numéro 36 de notre recueil, que Dieu se montre seulement, et puis tous nos ennemis intérieurs vont fuir devant sa face. Je vous propose de chanter les trois strophes donc du psaume 68, numéro 36. Un paroissien fidèle m'a dit être choqué depuis toujours par la parabole des talents que raconte Jésus. Et il y a de quoi, en fait. Et pourtant, l'Évangile tout entier est certainement bonne nouvelle pour chacun de nous. Donc je vous propose de vous pencher aujourd'hui à nouveau frais sur cette parole, cette parabole que vous avez déjà entendue 1000 fois peut-être, pour chercher à comprendre où est l'Évangile dans ces paroles choquantes. Jésus dit au chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, appela ses propres serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon ses propres capacités, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents se mit à avancer, il travailla avec ses talents et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul s'éloigna, creusa la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître des serviteurs vient leur faire rendre compte. S'avançant, celui qui avait reçu les 5 talents vint apporter 5 autres talents et dit « Maître, tu m'avais donné 5 talents ». Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » S'avançant aussi, celui qui avait reçu les 2 talents dit, « Maître, tu m'avais donné 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, serviteur, bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » S'avançant aussi, celui qui avait bien reçu 1 seul talent dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé et récoltant là où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, je me suis éloigné et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ton talent. » Son maître lui répondit, « Serviteur, mauvais et paresseux, tu pensais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Et à mon arrivée, j'aurai récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car, nous dit Jésus, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ensuite, je voudrais vous lire dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 12, un passage là aussi très, très connu, où Jésus nous dit, voilà ce que Dieu attend de nous en fait. Un des scribes vint demander à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, le premier c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Le second commandement c'est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette parabole des talents est une des plus connues, au point que le mot talent est entré comme un nom commun dans la langue française, ce qui montre que ce texte a vraiment été reçu par notre culture. Mais est-il un texte qui a été bien reçu? Il est à plus d'un titre choquant. Jésus y bouscule ce que nous avions cru comprendre, connaître de son message. L'évangile du Christ annonce l'amour et la justice de Dieu. Or, nous avons ici une répartition inégale des talents. L'évangile annonce le pardon du pécheur, de celui qui a une mauvaise vie ou qui croit de travers, ou qui ne cherche même pas Dieu. Eh bien, le serviteur timoré est ici jeté dans les ténèbres du dehors. Jésus a une attention particulière pour les petits, les faibles, les pauvres. Eh bien, le mauvais homme est ici celui qui a le moins, et l'homme juste, c'est le riche. Marie annonçait que Dieu a rassasié de bien les affamés et qu'il a renvoyé les riches à vide. Ici, Jésus dit l'inverse. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Et pourtant, oui, l'Évangile annonce bien, effectivement, l'amour, la justice, le pardon de Dieu, son soin pour les petits, pour les faibles, pour les pauvres, pour les pécheurs, pour ceux qui ne croient pas ou qui croient mal. Par cette parabole des talents, Jésus complète et complexifie son message. Dieu s'occupe aussi, bien sûr, des riches, des puissants, des savants, de ceux qui font le bien autour d'eux, car ils sont aussi des enfants d'Abraham, comme le dit Jésus de Zachée. Mais reprenons chacun des points choquants de cette parabole de Jésus afin de se mettre à l'écoute de l'Évangile du Christ. Les talents ne sont pas répartis également entre les personnes. Où est donc l'amour et la justice de Dieu prônés par l'Évangile du Christ? C'est vrai que le monde est ainsi fait que les talents ne sont pas également distribués entre les personnes. Si Jésus disait le contraire, ce serait une blague. En nous comparant, nous avons tous des personnes dont nous pourrions être envieux, jaloux. Il y a des plus riches, des plus intelligents, des plus beaux, des plus doués en tout, des qui ont de vrais amis, des à qui tout semble sourire dans l'existence, des qui arrivent même à faire ce qu'ils décident de faire. C'est vrai. Alors, où est la justice de Dieu? Elle est une espérance. Elle est un projet en cours. Elle est un combat. C'est pourquoi le Christ nous appelle à avoir faim et soif de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils verront Dieu. C'est pourquoi aussi Jésus nous conseille de prier pour que la volonté de Dieu soit un peu plus faite sur la terre comme au ciel. Et de rechercher le royaume de Dieu et sa justice pour maintenant. Que ça soit ça vraiment notre priorité. Il y a du boulot à faire, certes. Et donc d'agir à notre niveau dans ce chantier avec lui tant que le monde durera. Il restera de l'injustice. Il reste de l'injustice. Il y a une part de chaos qui existe dans l'univers qui influe sur la distribution des talents, alors même que tout talent vient de Dieu et que c'est une bénédiction. Cette existence du chaos est une des causes de cette inégalité. Ensuite, si l'on reprend l'image que Paul donne de l'humanité comme un corps, il y a un œil ou une main semble avoir plus de talent qu'un pied. Certes, et pourtant Paul a raison quand il dit que chaque membre a sa place à égalité dans le corps. Seulement, nous sommes ainsi faits que nous aimerions être plus grands que ce que nous sommes, et c'est très bien. C'est bien, sauf que cela fait que nous sommes souvent déçus par nous-mêmes. Et nous sommes déçus du lot qui nous est échu, de sorte qu'il peut nous arriver de mépriser même jusqu'aux talents que nous avons réellement et de les enterrer. La jalousie, vraiment, ne nous fait pas du bien. Alors les talents sont inégalement distribués, seulement, nous dit ici Jésus, la joie parfaite est donnée également à tous. À celui qui a 10, voire 11 talents, comme à celui qui n'en a que 2, voire 4. Et tous reçoivent une importante puissance d'être et une possibilité de créativité importante. C'est ce que Jésus appelle être établi sur beaucoup. Et puis, avec la liberté d'utiliser ce pouvoir d'être, d'une façon tout à fait libre et personnelle, car là-dedans, le maître ne dit pas comment utiliser les talents qu'il nous donne. Sauf que cela, c'est pour les deux premiers serviteurs. Ce qui arrive au dernier serviteur est l'occasion d'un autre choc. L'Évangile annonce le pardon des pécheurs, et voici que le dernier serviteur est jeté dans les ténèbres du dehors. Alors cette apparente contradiction est facile à lever, je vous en ai déjà parlé peut-être 12 fois, elle apparaît dans bien des passages de la Bible. Nous sommes à la fois, dans cette histoire, comme dans bien des histoires de la Bible, tous à la fois le juste qui est félicité et le mauvais qui est éliminé. Nous avons là les deux faces de l'action de Dieu pour nous aider à avancer, pour nous sauver. À la fois en bénissant ce qui est génial dans notre être et dans ce monde, et en éliminant ce qui est en nous hors de la vie, ce qui est en nous source de mort, ce qui enténèbre notre existence. Alors oui, il y a une part de notre être qui nous plombe. Jésus nous aide ici à la discerner en mettant en scène le troisième serviteur de cette parabole. Ce n'est pas parce qu'il a reçu qu'un seul talent qu'il a un problème. Tel que Jésus construit son histoire, même s'il en avait reçu 100 talents, il aurait été problématique de toute façon avec sa mentalité et avec sa théologie. Ce serviteur est tellement sûr de son bon droit, alors qu'il n'a rien compris et rien écouté d'ailleurs. Il reproche à Dieu de moissonner où il n'a pas semé, alors que c'est exactement l'inverse dans cette histoire. Dieu vient de distribuer tous ses biens à ses serviteurs et il ne réclame rien en retour, si ce n'est d'entendre de leurs nouvelles plus tard. Littéralement, il n'y a pas marqué qu'il vient pour faire les comptes, mais pour porter ensemble la parole, c'est-à-dire en discuter. Il vient prendre des nouvelles parce que ça l'intéresse et que ça le réjouit. Et c'est alors que ce serviteur lui envoie à la figure le talent qu'il avait reçu en disant « Voilà ton talent !» Alors que le maître le lui avait donné en fait, vraiment donné, c'est-à-dire offert pour toujours, pour qu'il puisse être libre d'en faire ce qu'il avait envie. C'est ça, donner. D'ailleurs, c'est bien ce que les deux autres serviteurs ont compris. Il n'est pas question une seconde pour les deux premiers serviteurs qu'ils rendent l'un les 5 talents, l'autre ses 2 talents, ni d'ailleurs qu'ils offrent les talents gagnés. Dieu d'ailleurs ne le leur demande pas. Le troisième serviteur n'a donc rien compris. Pourquoi ? Parce qu'il est bloqué dans sa théologie et dans sa philosophie de vie. En fait, les deux sont liés. Comme il est avec Dieu, il devait être avec ses proches aussi. Du coup, il se pourrit lui-même sa propre vie, et probablement celle de ses proches aussi. Il gâche son talent. Il aurait eu tous les talents du monde qu'il les aurait gâchés tout autant. Et cela, malgré l'amour et les soins de Dieu. C'est pourquoi je crois fort utile que le premier commandement que donne Jésus, suivant d'ailleurs en cela la Torah, c'est d'écouter Dieu. La Torah disait de l'écouter en l'aimant, comme étant à la fois Elohim, Dieu créateur, et Yahvé, l'Éternel ou le Seigneur, c'est-à-dire Dieu en tant qu'il nous pardonne et prend soin de nous quand nous ne sommes pas en forme. Il n'y a donc rien à craindre de Dieu, bien sûr. La Torah et Jésus nous proposent de faire de cette écoute une pratique intérieure plusieurs fois par jour dans notre intimité. En mettant en premier cette écoute confiante, aimante de Dieu et de l'Éternel, nous ne devrions pas pouvoir être enfermés dans un dogme comme ce troisième serviteur. Bien sûr que nous pensons un certain nombre d'erreurs, de théologie, de morale, de valeurs, puisque c'est confusément que nous connaissons, nous dit l'apôtre Paul. C'est confusément que nous connaissons Dieu, que nous connaissons la vie, que nous connaissons notre propre être. C'est confusément que nous sentons la valeur infinie de tout cela et les relations entre ces réalités vivantes, complexes. Notre théologie est donc imparfaite, certes, mais c'est normal. C'est normal, et quand nous sommes dans une attitude d'écoute, comme le propose Jésus, alors les progrès sont certains, nous sommes en marche. L'écoute est une disposition déjà à évoluer. Et puis, si nous sommes en confiance en Yahvé, en l'Éternel, en Dieu aimant, réconfortant, rassurant, comprenant, pardonnant, alors, dans cette ouverture, nous laisserons Dieu travailler en nous pour améliorer notre théologie jusqu'à ce que nous soyons réformés tout entiers. Par rapport au commandement de la Torah, Jésus ajoute que notre mission est d'aimer et donc d'écouter Dieu avec toute notre intelligence disponible. Or, ça fait partie des talents que nous recevons. C'est d'ailleurs cette dimension, ce talent de l'intelligence que Jésus nous fait travailler par ses paraboles étranges, dans l'espérance que nous pourrons ainsi faire évoluer nos schémas trop simplistes de Dieu, de la vie, de notre propre valeur. Rien de cela chez le serviteur qui tourne mal. Il est enfermé non seulement dans sa mauvaise théologie, mais aussi dans son intégrisme. Il n'a pas saisi que Dieu lui donnait vraiment sa richesse. Et quand Dieu vient ensuite simplement prendre de ses nouvelles avec intérêt, avec amour, il lui crache son dogme débile à la figure, puis il lui explique « J'ai eu peur, je me suis éloigné et j'ai enfoui ton talent ». Le pire de la mauvaise théologie, à mon avis, c'est d'avoir peur de Dieu. Car non seulement on a une conception fausse de Dieu, et donc de la vie, mais en plus on a du mal à se laisser réformer par Dieu, parce que l'on est, même dans la prière, sur la défensive vis-à-vis de lui, se méfiant un peu de ce qu'il va pouvoir nous envoyer. Par définition, Dieu est la source de la vie, et donc rien de ce qui est bon, de ce qui est vivant en nous, n'a à craindre de lui. Au contraire, il est bon, il est pardon, il est source de vie et de soins, il libère, il fait confiance, il s'intéresse, il aime, il se réjouit d'avance de voir ce que nous aurons inventé. Il aurait évidemment compris si le serviteur n'avait finalement rien fait, par manque de force, par faiblesse. Ça arrive souvent que Jésus vienne en aide à un aveugle, à un paralysé qui est en panne sur le bord du chemin, et Jésus vient à lui, et souvent il commence par lui annoncer le pardon de Dieu. Mais ce qui est en cause ici est autre chose que de la faiblesse. Ce serviteur est une figure de ce qui nous empoisonne. Il est une figure de notre côté bouché à toute évolution. Il est une figure de notre rancœur contre la vie. Il est une figure de notre peur de la vie. Il est une figure de notre peur de faire quelque chose, de peur de nous tromper. Peur de l'injustice qu'il peut y avoir dans la vie. Alors oui, peur de faire équipe avec notre prochain, disposé même à nous aider. Ce prochain disposé à nous aider est ici figuré par le banquier, comme si Jésus savait d'avance la confiance que nous pouvons avoir accordée au banquier genevois. Donc, merci à Jésus pour notre cité. Les premiers serviteurs, ils évoquent la logique du don, de la générosité, celle de la beauté du geste, la logique de l'espérance de Dieu pour de nous voir exprimer à notre façon notre personnalité unique. Cela évoque la fécondité du don quand il est reçu simplement, comme un don. Le dernier serviteur, il évoque la logique du devoir imposé, de la menace et donc de la peur, la logique du donnant-donnant, la logique de la dette. Et cela pourrit notre foi, nos relations avec les autres. Cela affaiblit notre courage d'être dans le monde. Deux logiques de vie, celle du don ou celle de la dette. Deux conceptions de Dieu. Dans son Notre Père, Jésus nous invite à prier « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». On pourrait traduire cela littéralement, cette demande « Père, libère-nous de la logique de la dette, tant vis-à-vis de toi, notre Dieu, que vis-à-vis de notre prochain ». Je pense, oui, que c'est vraiment à méditer afin de discerner en nous les traces de cette logique de la dette et entrer dans celle du don. Savoir recevoir et savoir donner, simplement, sans la dette. Les serviteurs fidèles ont saisi que le don de Dieu est pure générosité et espérance de Dieu. Le don n'engendre pas de dette ni de devoir vis-à-vis de l'autre. Donner, c'est donner. Ce qui n'empêche pas que Dieu espère et s'intéresse sur ce que nous ferons de son don. Il se réjouit de découvrir ce que le récipiendaire en fera, comme on le voit faire donc à la fin de la parabole. Cette théologie et cette façon d'être avec notre Dieu et avec notre prochain sont extraordinairement libérantes. Par contre, si l'on s'imagine que la générosité de Dieu à notre égard serait comme une sorte d'avance sur salaire, nous imposant des devoirs, nous avons là une logique perverse qui fait des dégâts immenses. Parce qu'alors, la dette de l'homme vis-à-vis de Dieu est insupportablement élevée. Il faudrait que nous arrivions à être dignes a posteriori de la vie que nous avons reçue de lui, de nos talents, des paroles de l'Évangile, de la vie du Christ, de sa mort sur la croix, de l'amour de Dieu et celui de nos parents, de la beauté du monde, de l'air que nous respirons, de l'eau et de la lumière. Il faudrait payer pour tout cela, au moins symboliquement, sinon nous manquerions à notre infini devoir vis-à-vis de ce Dieu magnifique et infini. De quoi être comme le troisième serviteur, reprends ton cadeau, désolé, mais j'avais rien demandé. Alors qu'en réalité, nous voyons ici que si Dieu a donné, il a vraiment donné. Nous ne lui devons rien. C'est par amour, c'est par la beauté du geste qu'il a donné. Alors oui, c'est dans l'espérance que cela nous inspirera de créer de bonnes choses ensuite, mais alors, si nous faisons de bonnes choses, puisqu'il nous a tout donné gratuitement et sans devoir, sans condition, si nous faisons quelque chose, de notre part aussi, ce geste sera un don gratuit, une façon d'entrer dans cette façon joyeuse de vivre en donnant. Alors pourquoi est-ce que Jésus donne ici le bon rôle aux serviteurs les plus riches et non aux pauvres ? Ben c'est précisément parce que nous sommes riches. Et c'est ce que nous savons dès lors que nous découvrons, que nous prenons conscience de cette richesse incroyable que nous avons d'être nous-mêmes vivants en ce monde. Et le pauvre de cette histoire, il est pauvre de manquer d'une vraie relation de confiance avec Dieu et de confiance avec sa propre vie et dans ce talent incroyable qu'il a reçu d'être lui-même. Reste enfin donc la parole la plus étrange quand le maître donne à celui qui en a, qui a déjà 10 talents, il donne le talent refusé par le serviteur infidèle. Et Jésus explique alors, on donnera à celui qui a et il sera dans une abondance extraordinaire, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Alors quelle est donc cette richesse dont parle Jésus ici? Quel est ce talent qu'il donne à celui qui en avait déjà plein? Eh bien, nous en avons un indice au début de l'histoire. Jésus parle de Dieu comme appelant ses serviteurs et il leur remet ses biens, donnant 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Alors, qu'est-ce qu'un juste et bon maître donne à chacun selon sa capacité? Ben, c'est une tâche à accomplir, c'est du boulot à faire, plus ou moins difficile, plus ou moins lourd, plus ou moins complexe. D'ailleurs, la richesse du Créateur, ben, c'est de créer. Et dans la Bible, quand Dieu appelle un serviteur, ben, c'est pour participer à son œuvre de salut, en étant prophète, en étant roi, en étant prêtre. Alors que faire quand une personne appelée à faire une tâche fait défaut? Ben, comme il faut bien que le travail soit fait, qui va s'en charger de ce boulot? Ben, ce sera bien sûr celui qui fait déjà plein de choses. C'est comme ça en famille, c'est d'ailleurs comme ça dans l'église, n'est-ce pas Eric par exemple? Quand on dit, ben, tiens, qui va faire encore quelque chose? Pense, ça va tomber sur ceux qui font déjà 1000 choses. C'est comme ça, parce que cette personne qui fait déjà plein de choses, comme Dieu, elle ne pourra pas supporter, par exemple, qu'une seule personne ayant besoin d'aide soit abandonnée. C'est comme ça. Cette parabole nous dit la liberté d'accomplir notre vocation librement et de nous inviter de nouvelles occasions de service. Nous avions 5 talents, 5 missions à faire, et bien on va s'en inventer 5 autres. En même temps, Jésus nous invite à nous montrer raisonnables dans notre vie de bien faire, à chacun selon sa capacité. Nous avons par exemple 1 talent, ben c'est déjà immense, peut-être que nous en aurons 2 demain, mais pour aujourd'hui c'est 1 talent que nous sommes capables. Eh bien, telle autre personne a une capacité de 2 ou de 5 doses de travail, ou même de 10 ou de 11, tant mieux. Il n'y a à être ni jaloux des personnes qui peuvent faire plus, ni à en être fier de ce que nous pouvons faire. Chacun comme il le peut aujourd'hui, comme il le sent, à sa façon. C'est ce que nous raconte cette histoire merveilleuse. C'est ainsi que les talents sont tout autant du travail à faire, des tâches à accomplir, que des bénédictions formidables à vivre, nous faisant participer à la joie de notre Maître. Qu'il soit béni. Amen. Merci Didier pour cette belle pièce d'orgue qui nous prépare à chanter le cantique 409. Veille et prie et sois fervent, combat sans relâche. Je vous propose de chanter les trois strophes donc de ce cantique 409. Je vous propose de mettre simplement notre amour et notre foi à présenter à Dieu notre espérance de paix dans la prière. Ô Dieu, viens à notre aide. Béni sois-tu, éternel Créateur du monde et de ses merveilles. Que ta justice et ton amour emplissent l'univers et les cœurs de chacune et de chacun en ce monde. Béni sois-tu, éternelle parole vivante, à l'origine du monde, viens à notre aide. Que ton évangile parvienne à toute personne assoiffée et que ton évangile mette en nous confiance et paix, enthousiasme et bon projet. Béni sois-tu, éternelle esprit de vie, viens à notre aide. Que ton souffle renouvelle la face de la terre. Donne soif de réconciliation, de simplicité, de justice, de fidélité et de paix. Béni sois-tu, éternelle espérance de ton peuple. Viens à notre aide. Viens à l'aide des hommes et des femmes, qu'ils puissent trouver une église qui soit pour eux une joie et une chance pour leur vie. Béni sois-tu, éternelle ami des humains, viens à notre aide et que toute personne trouve en toi le salut et une personne pour le secourir. Béni sois-tu, éternel, lumière de nos vies, viens à notre aide. Que nous demeurions pour toujours et de plus en plus en communion avec toi et avec nos frères et sœurs que tu nous confies. Oui, viens à notre aide, ô notre Dieu. Et confiant dans ton amour, nous osons te dire cette prière qui fait de nous tous des fils et des filles du même Père, de la même Mère que nous avons dans l'au-delà de tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors à la sortie, vous trouverez, si vous le désirez, le texte de la prédication que je vous ai proposé et sur le site internet donc, de la région Rive-Gauche, vous trouverez toute une série donc, de prédications chaque dimanche en enregistrement, en vidéo et en texte. Ça permet aussi d'aller se promener et de rattraper ça dans la semaine. Vous pouvez aussi passer une petite feuille de prédication à une personne que vous penseriez être intéressée. Ça ne l'oblige à rien et c'est un partage qui peut être, qui peut porter des fruits. Maintenant, c'est le moment de l'offrande qui permet effectivement à l'Église de porter son témoignage dans le monde, ce monde qui a tant besoin de la foi, de l'espérance et de l'amour que le Christ apporte par son évangile et par sa vie. Et pendant l'offrande, nous vous proposons de chanter ensemble le cantique 145 « Demeure par ta grâce avec nous, Dieu Sauveur ». Voici comment l'apôtre Paul nous parle de Dieu en l'appelant l'amour et agapé en grec. L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Ainsi est notre Dieu. Et maintenant donc, ces trois choses demeurent éternellement, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces réalités, c'est l'amour. Suivez donc l'amour vivant qui marque sa trace devant nous. Et pour cela, nous recevons la bénédiction de Dieu, bénédiction donnée au singulier individuellement à chacune et à chacun, selon les paroles données à Moïse. L'Éternel te bénit et il t'accompagne. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Béni sois-tu de génération en génération, partout dans l'univers, ô Éternel, notre Dieu. Amen.